Avant de commencer, s'il vous plaît, et on le répète chaque vendredi, j'aimerais bien que ça soit un automatisme, remplissez les rangs, serrez-vous. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous sommes durant le mois du Ramadan, et dimanche soir, ça sera la 17e nuit, du mois du Ramadan. Et dimanche soir, oui, quand on dit dimanche soir, dans la tête de tous, c'est la Coupe du Monde, la finale. Mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a 1400 ans, à l'époque du prophète. Le 17e jour du mois du Ramadan s'est produite une bataille décisive, la bataille de Badr. Cette bataille n'aurait pas eu lieu si les polythéistes de la Mecque ne l'avaient pas provoquée. Car le prophète a simplement envoyé un détachement militaire de 313 personnes afin de récupérer de la caravane de Abu Soufiane, parce qu'il était de retour du Yémen et il avait avec lui beaucoup d'argent. Il voulait récupérer l'argent, les biens qui avaient été volés à la Mecque. Parce que quand les musulmans mécois ont été expulsés de la Mecque, ils ont dû délaisser tous leurs biens. Qu'est-ce qu'on fait? Les ennemis, ils les ont confisqués, ils les ont vendus. Et donc le prophète a dit, on va récupérer nos biens. Mais Abu Soufiane va appeler au secours les païens de la Mecque et ils vont venir armés afin de combattre le prophète et les compagnons. Allah nous dit dans Surat Ali Imran, verset 13, « قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَى » Et ce verset nous parle de la bataille de Badr. « N'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées, l'armée des Mécois et l'armée des Médinois ?»« فِئَتٌ » تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ dont l'une des armées, combattait pour la cause de Dieu, pour une cause juste. Quant aux autres, ils défendaient l'impiété et l'injustice. Allah Azza wa Jal, ici, dans ce verset, il attire notre attention sur les conditions de la victoire. Qu'est-ce qui fait que Dieu vient en aide à un groupe de gens opprimés et il leur donne la victoire contre des gens injustes, oppresseurs, agresseurs, qui sont plus nombreux, plus armés? Pourquoi ce petit groupe a-t-il le dessus? Allah ici nous en parle. Lorsque le nombre de croyants parut aux yeux des impies le double de ce qu'il était réellement, Dieu prête son assistance à qui il veut. Voilà bien une leçon à méditer pour des esprits clairvoyants. Allah nous dit, dans ce verset, j'ai tout résumé, faites marcher votre clairvoyance, votre perspicacité, et vous allez comprendre que dans ce verset, tout est dit. Allah, il dit d'abord, il y a un signe. Quand ces deux armées se sont affrontées, l'une des armées, celle des polythéistes de la Mecque, était trois fois plus nombreuse. Ils étaient à peu près 1000 entre fantassins et cavaliers. Tandis que les musulmans, ils étaient 313. Non seulement ils étaient moins nombreux, mais ils étaient moins bien équipés. Car ils n'avaient que 70 chameaux et 2 chevaux, les musulmans. Quant aux ennemis, ils avaient 70 chevaux. Et le cheval, bien évidemment, est meilleur que le chameau, il est plus rapide. Ils étaient moins bien armés, moins nombreux. Et pourtant, ils vont remporter la guerre. Pourquoi? Avant, le témoignage d'un compagnon, Ibn Mas'ud, il dit, et il a participé à la bataille, Avant de commencer la bataille, j'ai dit à mon ami, à ton avis, combien sont-ils ? Il a dit, moi je les estime à 70. Et Ibn Mas'ud a dit, non, moi je crois qu'ils sont plutôt 100, alors qu'ils étaient 1000. C'est quand même étrange, non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, il n'y a pas que, on ne peut pas comprendre une victoire qu'avec des critères matériels. On doit aussi comprendre que les batailles trouvent une issue parce qu'il y a un aspect psychologique. Car ce sont des êtres humains qui combattent. Donc le psychologique est très important. Et bien dans la bataille de Badr, Allah Azza wa Jal est intervenu de trois manières. La première, il a fait en sorte que les musulmans voient l'armée adverse moins nombreux qu'eux, afin qu'ils n'aient pas peur, afin qu'ils soient courageux. Et il a fait en sorte, au départ, avant que les deux armées s'affrontent, que les ennemis voient les musulmans moins nombreux qu'eux. Pourquoi ? Afin que la bataille ait lieu, et afin que les ennemis perdent et que ça soit une défaite cuisante. Parce que s'ils les avaient vus plus nombreux au départ, ils auraient fait demi-tour. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où les deux armées vont se rencontrer, c'est là que Dieu va changer la donne. Les polythéistes vont croire qu'ils sont deux fois plus nombreux qu'eux. Et c'est ce qu'on a lu dans le verset. Quand ils leur sont apparus deux fois plus nombreux. Une guerre psychologique. Mais c'est pas fini. Allah Azza wa Jal intervient autrement, en mettant la peur et la panique, l'épouvante, dans le cœur des ennemis. Et ça c'est un verset. Dans Surat Ali Imran, Allah nous dit, puis il révéla aux anges, je suis avec vous, rassurez les croyants, je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles. Dans le verset de la sourate Le Butin, Allah dit, et lorsque vous vous êtes rencontrés, c'est-à-dire lors de la bataille de Badr, avec vos ennemis, Dieu les fit apparaître à vos yeux moins nombreux qu'ils n'étaient en réalité au départ, de même qu'il vous fit apparaître à leurs yeux peu nombreux. Dans quel but ? Afin que fût parachevé le décret de Dieu. Dieu voulait qu'il y ait une bataille qui devait être exécutée. Et c'est à Dieu que tout doit être ramené. Allah savait qu'ils allaient perdre, et il fallait que ça se passe. Allah est intervenu d'une autre manière. Il a envoyé un soutien du ciel, des anges, les anges qui combattent aux côtés des croyants. Dans Sourate Ali Imran, Allah nous dit que le prophète a dit aux croyants, « Tenez bon, car Dieu va nous envoyer 5000 anges parmi les élites, les meilleurs des anges. » Et dans le hadith rapporté par Muslim, Abdullah ibn Abbas dit, « L'un des compagnons nous a raconté qu'il courait après un ennemi qui faisait fuite, et il a entendu une voix, quelqu'un qui dit à son cheval, « Avance, Hayzoum !» Et c'était un ange qui disait à son cheval, « Avance !» Et il a dit, ce compagnon, j'ai vu cet homme tomber, et j'ai entendu comme un coup de fouet. Et j'ai vu ses doigts qui étaient coupés, et sa nuque également qui était coupée. Et Allah dit dans Sourate Ali Imran, je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles, frappez-les, c'est-à-dire les anges, à la nuque et frappez-les sur les doigts. Et également le nez, c'était des marques distinctives, des victimes des anges. Sanasimuhu ala al-khurtum. Allah dit en parlant d'une personne qui a été tuée, nous allons le marquer au nez. Et ils ont été aidés par les anges. Et quand on a rapporté cette chose au prophète, il a dit, tu as raison, c'est un soutien qui nous vient du troisième ciel. Allah vient en aide aux gens opprimés, qui se font attaquer injustement en leur envoyant des anges, en jetant l'épouvante dans le cœur des ennemis, et également en les rassurant. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2008 quand Gaza a été bombardé. Quand Gaza a été bombardé par les agresseurs, des résistants disent « Nous essayons de repousser les chars et on voyait à nos côtés des gens vêtus de blanc qui nous étaient inconnus. » Et Allah a mis l'épouvante dans le cœur de ses agresseurs parce que quand ils ont quitté, en courbant l'échine, la tête basse, Gaza, ils ont laissé derrière eux des couches parce que ces soldats avaient tellement peur qu'ils ne sortaient pas des tanks. Ils restaient plusieurs jours dans leurs tanks et ils mettaient des couches. Et Allah vient en aide aux croyants tant qu'ils ont la foi. Et c'est pour ça que Dieu dit dans le verset qu'on a cité au départ, فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَ كَافِرَةٌ. Un groupe qui combattait pour plaire à Dieu, pour une cause juste et noble, ils étaient rattachés à Dieu, ils patientaient. Quant aux autres, ils combattaient injustement. Et Allah a vu dans les gens de Gaza la foi. Quatre résistants sont restés 3 jours en ne se nourrissant que de dattes et d'eau et sans dormir. Et après 3 jours, ils étaient épuisés. Alors ils se sont repliés dans l'une des maisons évacuées et ils ont dormi. Mais tiraillés par la faim, ils vont se réveiller avant le fajr. Et ils vont chercher dans la maison de la nourriture. Ils vont trouver dans les placards. Et juste avant de manger, l'un d'entre eux va dire « Attendez, cette nourriture n'est pas à nous. Elle ne nous appartient pas. » Et ils prennent leur téléphone, ils appellent un imam au centre-ville, leur cheikh, et ils lui demandent une fatwa pour pouvoir manger cette nourriture. Est-ce qu'on peut ? Et le cheikh va leur dire « Mais bien entendu, vous vous sacrifiez pour nous ? Vous avez besoin de vous renforcer pour repousser l'envahisseur ? Mangez !» Et l'imam, après avoir dirigé la prière de l'Fajr, va se retourner et il va regarder les présents et il va verser des larmes en disant « Regardez vos frères, ils risquent leur vie pour vous et ils pensent à votre nourriture. » Ces gens avaient la foi. Ces gens avaient la foi, c'est pour ça que Dieu est venu à leur aide. Naam. Nous assistons, encore une fois, à une tentative de la part d'un État terroriste, envahisseur, une tentative nouvelle qui se terminera par un échec, ne vous inquiétez pas, de quoi d'en finir avec la population de Gaza après une dizaine d'années d'embargo. Allah nous dit à la fin du verset, « Et Dieu donne la victoire à qui il veut. Il y a, dans la bataille de Badr, et dans ce que je vous ai dit, un signe, des leçons à tirer pour des gens clairvoyants. » Qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon de ce qui se passe à Gaza? Nous qui sommes ici au chaud. D'abord, la nécessité de s'informer. De s'informer. Mais pas simplement sur l'actualité. Parce que ça, c'est de l'information qui vient d'une réaction. Il faut s'informer sur l'histoire de la Palestine. Qui parmi nous a pris un livre et a lu l'histoire de la Palestine? L'histoire de la création de l'État d'Israël et de ses exactions. Qui a déjà lu? On peut facilement nous manipuler parce que on ne connaît pas notre histoire et on ne connaît pas l'histoire de la Palestine. Vous savez ce qu'a dit Moshe Dayan, l'un des plus grands chefs militaires et puis ensuite homme politique de l'État d'Israël, et on le reconnaît parce qu'il est borgne, parce qu'il a mis quelque chose sur son œil. Vous savez ce qu'il a dit? Quand il a publié la stratégie de l'État d'Israël d'invasion, de colonisation, ses proches lui ont dit « Mais tu es en train de mettre au grand jour notre stratégie, nos plans. » C'est pas normal, il faut que ça reste secret. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « Ne vous inquiétez pas car les Arabes ne lisent pas. » Les Arabes ne lisent pas, vous inquiétez pas. Les Israéliens ont compris qu'il fallait qu'ils étudient leur histoire pour être forts. Et le devoir de mémoire chez eux est central. Vous savez ce que font certaines familles quand ils sont à table? Ils mettent des assiettes devant chaque personne présente, ils en rajoutent une ou deux. Pourquoi? Il n'y a personne qui mange. Et vous savez ce qu'ils disent? Regardez comment ils éduquent leurs enfants. Et ils ont raison. Ils leur disent, cette assiette, c'est pour tel soldat israélien qui a été tué. Il est là, il est avec nous. On pense à lui. Est-ce qu'on connaît les mythes fondateurs de la création de l'État d'Israël? Est-ce qu'on est capable de répondre à tout ce qu'ils avancent comme argument pour justifier leur volonté hégémonique de coloniser? Je suis sûr que non. Quand ils nous parlent, par exemple, ils avancent des prétentions historiques en disant qu'on a un droit du sol, que nous sommes venus dans une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Est-ce qu'on sait comment répondre à ça? Si on connaît l'histoire, oui. Mais si on ne connaît pas l'histoire, on est incapable, on reste silencieux. Est-ce qu'on sait, par exemple, que As-Sultan Ibn Abd al-Hamid, qui était à la tête de l'Empire ottoman avant qu'il ne tombe, on a essayé de lui acheter la Palestine et qu'il a refusé, il a dit « Je ne vous vendrai pas ce qui ne m'appartient pas ». Est-ce qu'on connaît ces détails historiques? Je ne crois pas. Et quand ils justifient leur impérialisme par la religion, est-ce qu'on est capable de répondre? Quand ils vous disent que c'est la terre promise, ou quand ils vous parlent du mur d'élémentation ou du soi-disant temple de Salomon et qu'ils ont un droit religieux, est-ce qu'on est capable de répondre? Est-ce qu'on sait qu'au départ, avec le début du sionisme, en 1897, congrès de Bâle, que le pays qui était proposé afin de regrouper la diaspora juive n'était pas la Palestine? Qu'ils ont parlé du Mozambique, ils ont parlé de Chypre, ils ont parlé de l'Ouganda, ils ont parlé du Congo belge, ils ont parlé de l'Argentine, et c'est après plusieurs années qu'ils ont pensé à la Palestine. Et donc quand on nous parle de la terre promise, c'est du baratin, et que le sionisme c'est une idéologie qui a des ambitions politiques, expansionnistes, et qui essaie de mettre une coloration religieuse. Est-ce qu'on sait tout ça? Je ne crois pas parce qu'on ne lit pas. On ne lit pas l'histoire. Ce qu'il faut aussi, à part s'informer, c'est également s'indigner. S'indigner. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas normal. C'est une injustice flagrante. C'est une injustice flagrante. Mais les gens sont préoccupés par la Coupe du Monde. N'est-ce pas? Il y a une manifestation demain à Lille, par exemple. Bonne initiative. Mais ça ne suffit pas, parce que ce genre d'initiatives, elles sont ponctuelles. Nous, ce qu'on veut, c'est du long terme. Et le long terme, c'est de s'informer, de faire prendre conscience aux gens de l'injustice, de faire des pétitions, d'interpeller les responsables politiques. Et un frère a eu une bonne idée, il a dit, envoyons des centaines de lettres ou de mails à nos députés, en leur demandant de réagir à ce qui se passe. En envoyant des SMS, comme on aime bien le faire, n'est-ce pas, pour dire ce qui se passe. Également, ce qu'il faut, c'est aider. Et c'est ça qui va leur permettre de tenir, c'est l'aide humanitaire. Parce que tu as manifesté. Est-ce que c'est ça qui change quelque chose sur place de leurs difficultés et leurs douleurs? Pas vraiment. Pas vraiment. La véritable aide, c'est l'aide humanitaire. Parce que ces gens qui résistent, eh bien, ils vont peut-être décéder, ils vont laisser des orphelins, des veuves. Il y a des gens qui sont handicapés, c'est le boycott depuis des années. Et la question c'est, est-ce que tu parraines un orphelin? Alors que tu sais très bien que le prophète t'a dit, celui qui parraine un orphelin sera à moi, sera à mes côtés, au paradis, et il a joint ses deux doigts. Non seulement tu viens en aide à des opprimés, mais en plus, tu gagnes une place privilégiée aux côtés du prophète au paradis. Est-ce qu'on a pensé à faire ça? Ou est-ce qu'on gère notre argent pour les plaisirs, pour les abonnements. Évidemment, les invocations, ça, c'est évident et c'est le minimum. Et ce qu'il faut enfin, c'est penser à nous, communauté musulmane. Parce que, pour vous dire la vérité, je ne m'inquiète pas pour eux. Je ne m'inquiète pas pour eux parce que Dieu est avec eux. Les anges sont avec eux. Et ils savent se débrouiller. Ils n'ont pas besoin véritablement de nous. Enfin si, l'humanitaire, évidemment. Mais ils ont l'expérience, ils ont la force et le courage. Mais la véritable question, c'est toi. Et mon inquiétude, elle n'est pas pour eux, elle est pour toi. Toi dans ta vie. Eux, ils ont la foi. Dieu est avec eux. Ils vont gagner le martyr. N'est-ce pas? Mais toi dans ta vie. Et c'est ça que Gaza doit nous apprendre. Gaza doit nous apprendre la dignité, la foi, l'amour de Dieu, le combat contre l'injustice. Mais chez toi, là où tu vis, il y a des injustices. Là où tu vis, il y a des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? Eux, ils mènent leur combat. Et toi, ton combat ici en France, la réforme de la société, éduquer les gens, éduquer ta famille et tes enfants. Moi, quand je vois ce qui se passe à Gaza, c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit. C'est moi dans ma vie. Moi dans ma vie. Qu'est-ce que j'en tire dans ma vie personnelle? Et c'est pour ça que Dieu nous dit, vous avez dans la bataille de Badr des enseignements, vous dans votre vie personnelle. On a polémiqué, on s'est disputé sur des choses secondaires en début de Ramadan. Et maintenant, nous sommes renvoyés à des priorités. Ce qui se passe à Gaza, alhamdoulilah, ça nous renvoie à des priorités et à des débats centraux et à des choses réelles. Regardez, dimanche soir, nous sommes la nuit du 27, la nuit du 17, le jour où s'est passée la bataille de Badr. Moi, je vous propose quelque chose. On va voir si vous êtes digne de supporter Gaza et ce qu'ils endurent. On se lance un pari. Je ne vais pas regarder la Coupe du Monde. Je ne vais pas regarder la finale. Non. Et je vais prendre un livre et je vais lire l'histoire de la Palestine. Je vais m'informer pendant les 2 heures ou les 3 heures où les gens vont regarder des gens jouer au foot, et ben moi je vais me cultiver. Et si on adopte ce comportement dans notre vie, on va avancer. On va avancer. Mais si on est détourné par des distractions futiles, eh bien on n'avancera jamais. On n'avancera jamais. Demain, samedi, comme vous le savez, de 14h à 15h, il y a un cours de récitation du Coran pour les sœurs. Il n'y aura pas cours de 15h à 17h, le cours de religion, exceptionnellement. Et ensuite, à 20h jusqu'à l'heure du Maghrib, on continue la vie de Abu Bakr al-Siddiq et on commencera celle de Omar ibn al-Khattab. On rompt le jeûne ensemble, ramenez avec vous de la nourriture, on fait le tarawih et on reste jusqu'au Fajr pour continuer les explications et les commentaires de Sourate al-Hujurat. Aujourd'hui, la collecte, c'est pour la mosquée. La semaine prochaine, ça sera pour le Secours islamique. Vous avez, incha'Allah, à la sortie, la distribution des horaires de rupture du jeûne du Ramadan. Distribués gratuitement, on les a eus tardivement, on s'en excuse. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظ لنا أولادنا واحفظ لنا نساءنا وبارك لنا في صحتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم أعنهم وكن معهم اللهم اجعل الدائرة على الأعداء اللهم اجعل مكرهم في نحورهم اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك، تقبل صيامنا وتقبل أعمالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.